Le retour.
Très content.
De Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Que le Québec obtient sa juste part.
Canada Force, c'est notre plan pour bâtir un Canada par les Canadiens.
Un lien qui soit de transport collectif.
Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que le Parti conservateur n'a pas d'idée.
De faire payer les multimillionnaires.
Hey, c'est avec grand plaisir qu'on le reçoit en studio. Rodolphe Osney, salut.
Salut, DH.
On va dire aux auditeurs que tu es aussi depuis Belle Lurette avec Pierre l'avant-midi.
Ben oui. Écoute, j'ai regardé ça. Je pense que ça fait 4 ans que je suis avec vous à Radio X. Que chronique régulière, surtout le mardi avec
Pierre. T'es pas mort, Rodolphe.
Ben écoute, je suis toujours là, 4 ans déjà.
Eh oui.
Non, mais c'est parce que je lisais, parce que tu as fait une vidéo, puis les gens disaient, même je pense que tu l'as republié sur ta page Facebook, les gens disaient. Hey, tu vas à Radio X.
Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je le dis. Ça veut dire les gens qui ont vu la vidéo, je voulais juste vous dire, bon, ça fait 4 ans qu'on se parle, DH, que je parlais aussi à l'époque avec Robbie. Donc, oui, ça fait 4 ans que je fais des chroniques régulières avec vous et que j'espère qu'on va continuer comme ça.
Parce que quand tu viens, quand on parle à Québec, les gens t'apprécient, mais quand on sort de Québec, des fois, ils disent, tu sais, Radio X, la réputation, ça, toi, quand tu as pris tes décisions de venir ici là, ou ta décision de venir à l'antenne?
Non, moi, en fait, c'est même le contraire. Moi, j'apprécie ça parce que j'apprécie faire des podcasts, j'apprécie être média traditionnel, j'apprécie Radio X et je mets un défi aux gens qui nous écoutent. Essayez de me pogner que je dis quelque chose de différent sur toute n'importe quelle tribune. Vous verrez, je dis la même chose qu'on m'appelle de Radio-Canada, de LCN, du 98.5 ou de Radio X ou un balado comme Yann et Franck que j'en ai fait ou même on a un propre balado. Je dis la même chose, j'ai la même position, donc c'est pour ça. Puis moi, je trouve que c'est important parce que nous, on est là pour vulgariser la politique, on est là pour rendre ça intéressant, puis surtout que les gens ensuite votent et fassent leur choix.
Peut-être rappeler un peu ton pédigree, là, parce que tu as quand même travaillé quelques années au fédéral pour le Parti conservateur. Tu étais quoi, stratégique?
Non, en fait.
Stratège du parti politique?
Non, j'ai commencé, ma première expérience, j'ai été candidat. Je suis allé direct contre Thomas Mulcair à Outremont. Pourquoi? Parce que je savais que M. Mulcair, à l'époque, devait me donner au moins un débat local. C'était campagne de 2011. J'ai fait ce fameux débat avec Thomas Mulcair. Martin Cochon, le libéral, essayait de faire un retour. Puis finalement, ça a bien été. J'ai fait une dizaine de débats. La gang à Ottawa m'a appelé après la campagne. Ils m'ont dit « Viens. » Mais ils me disaient « T'as un accent un peu français. » Puis j'ai dit « Oui, j'ai étudié en Suisse. » Puis ils me disaient « T'as quoi comme formation? » Puis je disais « Je suis comptable. » Ils m'ont dit « Parfait, tu vas au commerce international. » J'ai fait 4 ans. Au commerce international. C'était l'époque où on négociait tous les accords de libre-échange. Libre-échange avec l'Europe, libre-échange avec la Corée, dossier des États-Unis. Ensuite, on a perdu le gouvernement. Mm-hmm. 2015, je suis parti un tout petit peu dans le Golfe. J'ai habité à Dubaï. L'équipe d'Andrew Scheer m'a rappelé quand il y a eu la campagne 2019. J'ai dit, je ne veux pas laisser tomber la famille. Je suis revenu pour la campagne de 2019, stratège pour Andrew Scheer. 2020, je me suis même, après qu'Andrew Scheer a perdu puis qu'Andrew Scheer a démissionné, je me suis même porté candidat à la chefferie du Parti conservateur. Malheureusement, la COVID a frappé. La campagne avait été suspendue.
À la chefferie?
Oui, je m'étais présenté à la chefferie, mais finalement, j'ai été disqualifié de la chefferie parce que je n'ai pas voulu faire campagne durant la pandémie. Et finalement, c'est là que tout doucement, j'ai commencé métier ou je ne sais pas, d'être analyste. Ce n'était pas le plan de match. Mais certains médias m'appelaient parce qu'ils me connaissaient. « Hey, peux-tu nous parler? » Je leur parlais. Puis après, c'était, tu sais, en médias, on parle toujours de background. Là, « Peux-tu me parler en background? » Ça veut dire « On ne te cite pas, mais dis-nous qu'est-ce que tu en penses. » Puis après, des fois, ils me disaient « Est-ce qu'on peut te citer sur celle-là? » J'ai dit « Oui. » Puis après, ça a fait effet boule de neige. Mon nom a commencé à apparaître dans les médias. Donc, on m'a appelé. On m'a demandé de faire plus de chroniques. On m'a demandé mon avis. Puis écoute, ça fait maintenant 4 ans.
On va sauter dans les sujets parce que tu en as plusieurs. Hein? On va manquer de temps plus que de sujets. Je te parlais de la coupe. Il y en a qui disent qu'ils essaient de la catégoriser comme étant drastique. C'est sûr que le chiffre est impressionnant.
Oui.
Là.
Oui.
47 millions sur... ça, c'est le Parti conservateur qui en a fait l'annonce la semaine dernière. Toi, parce que tu veux pas, tu as un peu de sang conservateur. Est-ce que tu penses qu'au Québec, on est dû pour ça?
Ben, écoute, je vais juste mettre le chiffre en perspective. Monsieur Éric Duhaime a fait quand même une annonce qui fait réagir 47 milliards. Tout de suite, Mme Frégette a dit que c'est un démantèlement de l'État. C'est 47 milliards sur 5 ans. Donc, 47 divisé par 5, on est à 9 milliards. Ensuite, tu te dis, attends, là, il y a combien le déficit cette année au Québec? 7 milliards de dollars. Donc, tu te dis, attendez, là, si on voulait avoir un équilibre budgétaire, on devrait couper normalement 7 milliards de dollars ou en tout cas essayer d'équilibrer le budget avec 7 milliards. Monsieur Duhaime propose 9 milliards de coupures par année en moyenne avec son plan. C'est pas si énorme que ça, si on parle pas véritablement démantèlement. Puis c'est ça toute la
guerre. Quand tu dis ça sur les autres radios ou télé, ben oui, qui sont plus à gauche, ben en est-ce qu'on te pointe du doigt en disant...
Ben, je vais te donner un scoop. Ouais. Je l'ai écrit dans ma chronique que j'ai envoyée aujourd'hui au Devoir qui va être publié vendredi en disant, écoutez, là, les chiffres...
Il n'y a pas de drame là, là.
Faut mettre les chiffres en perspective. Ouais. Un chiffre comme ça de 47, oui, ça fait, ça frappe. Mais ensuite, il faut le mettre un tout petit peu en perspective. Puis surtout, la chose la plus importante, pour tous les partis politiques, il va falloir qu'ils mettent un cadre financier puis qu'on juge le cadre financier parce que c'est bien beau de dire « Ah, on va faire ci ». Tu sais, quand Québec solidaire dit « Ah, on va donner 100 millions pour ci » ou un autre parti, très bien. Mettez-le dans le cadre financier puis qu'on voit la facture totale.
Est-ce que le timing est bon, Rodolphe, pour cette annonce-là, 47 milliards comme ça, pré-campagne?
Oui, ouais, oui. C'est moi, bon? Je pense que oui. Je pense que oui, il a frappé un bon coup, mais un gros coup, je veux dire, mais je pense que c'était aussi un bon coup. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu as tous les autres partis qui se positionnent en fonction de lui. Et il n'y a personne qui veut le suivre. En politique, ce qui est très important, c'est de créer une division avec tes adversaires, qu'il y a une ligne de démarcation très, très claire. Tu sais, le problème actuellement...
Donc, c'est un bon coup, là.
Ben, moi, je pense que c'est un bon coup parce que tu regardes Mme Fréchette et tu regardes M. Milliard, par exemple, tu vois pas trop de différence en ce moment. Les deux, ils viennent de
chambre...
Ben, c'est ça, les deux, ils viennent de chambre de commerce. Ils ont à peu près le même profil. Ils te proposent à peu près la même chose. Puis là, d'un côté, t'as comme... Bon, M. Poisson-Pierre-Pamondon, c'est la souveraineté, c'est une autre game. Puis là, t'as Éric Duhaime qui dit, regardez, là, moi, je vais vous dire les choses franchement. Je pense qu'on doit couper. Honnêtement, je pense qu'au moins, ils se positionnent dans le débat. Puis tu connais la règle. Parle-en bien, parle-en mal, mais parlez-en. Là, pour l'instant, il a en tout cas commencé un débat.
Oui, puis on dirait qu'il y a une vraie vision. C'est pas, il veut pas prendre des décisions, parce que Legault, moi, c'est une affaire que je vais y reprocher toute sa vie, c'est qu'il prenait des décisions en fonction des sondages. T'sais, si la population était pour ou contre, sauf dans l'histoire du tramway puis tout ça ici à Québec, mais en général, c'est un parti politique qui prend des décisions en fonction des sondages et de la direction du vent.
Bien, ce qui est triste avec François Legault ou le gouvernement Legault, c'est qu'ils sont arrivés au pouvoir avec des véritables promesses et surtout, ce qui est un cadeau inimaginable, de commencer avec un surplus budgétaire. T'imagines, là, moi, tu sais, c'est comme... N'importe qui en politique veut arriver au pouvoir et pas dire... Parce que normalement, tu sais, c'est quoi la règle? C'est que tu arrives, tu penses que c'est un déficit de 3 milliards, tu fouilles un peu, c'est un déficit de 10 milliards. Mais lui, c'est le...
Ouais, c'était le modus operandi. Hein? Ben, chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrivait, puis finalement, c'était double, puis triple.
Ben, c'est ça, on a regardé les chiffres, finalement, ils nous en ont passé une petite vite. Donc, honnêtement, tu vois que François Legault, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il y avait des promesses, on avait des attentes, il devait couper, il devait rationaliser, puis finalement, et puis en plus, il y avait un surplus. Puis là, tu regardes, tu te dis, OK, il a tout dilapidé, puis il n'a pas fait les changements qu'il avait promis.
Là, tu vois les sondages, en tout cas, celui dans la région de Québec où le Parti conservateur prend une avance au dernier sondage. Je pense que c'est 12 points, ça se peut-tu?
Oui, puis ça donnerait 11 sièges, là, selon les projections. Là.
Sens-tu que les autres partis vont devoir s'ajuster? Puis même dans les médias, je sens un plus grand respect envers le Parti conservateur et Éric Duhaime.
Oui, et ça, c'est quelque chose que je le pense vraiment. On connaît les qualités d'Éric Duhaime en termes de réussir à dicter l'agenda, dicter le message du jour. Danny, la game, tu la connais. En politique, tu essaies de gagner la journée médiatique. Chaque parti politique veut comme gagner la bataille médiatique. J'ai quand même l'impression qu'Éric Duhaime sait comment gagner la bataille médiatique du jour. On vient de le voir, il vient d'ouvrir un gros débat là, sur les finances publiques. Puis ça va rester comme ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc au moins, je pense qu'Éric Duhaime a mis ça. Puis oui, je pense qu'Éric Duhaime, quand tu regardes les sondages, maintenant, tu ne peux pas ne pas savoir quelle est la position du Parti conservateur quand il y a des annonces ou quoi que ce soit. Ça va être naturel qu'il va être dans la couverture médiatique.
Restons avec Éric. En fin de semaine, le tragique accident sur le pont... Tu as dû lire l'information. Oui. On l'accuse d'avoir été opportuniste, entre autres Pascal Bérubé, mais lui, il a fait la même maudite affaire sur le prolongement de l'autoroute 20 dans son secteur à lui, dans sa circonscription. Alors, c'est des choses que les politiciens font déjà. Sens-tu que c'est un peu de panique des autres partis ou toi, tu as réagi différemment si tu avais conseillé Éric?
Non, j'ai quand même l'impression que ça fait partie de l'expression « ceux qui le détestent vont le détester, ceux qui l'aiment vont l'aimer ». Je pense que c'est juste ça. Ça veut dire, tu regardes ça... ses partisans vont dire il a bien fait. Ceux qui ne l'aiment pas déjà depuis le départ vont essayer de sauter dessus pour essayer d'en faire une polémique. Mais c'est comme ça sur n'importe quelle crise qui arrive, sur n'importe quel sujet. Donc, moi, je la vois honnêtement comme une tempête dans un verre d'eau. Je ne pense pas que c'est ça qui fait changer l'électorat. Je pense que les gens qui aimaient déjà Éric, ils aimaient encore plus Éric. Les gens qui ne l'aimaient pas, je l'appelle Éric, mais M. Duhaime. Je pense que les gens qui ne l'aimaient pas, M. Duhaime, ben, ils ne l'aimeront pas plus avec ça.
T'es un gars de l'Estrie, je pense.
Oui, j'habite en Estrie. Je suis un gars de Montréal qui a étudié un peu à l'étranger, mais qui habite depuis au moins 4-5 ans maintenant en Estrie.
Mais tu fais beaucoup de présence, autant à Gatineau, je pense, Montréal, peut-être même à Trois-Rivières.
Oui.
C'est quoi ta vision, toi, du troisième lien? Parce qu'on parle avec Lino Zambito depuis un an, puis même si c'est un gars de Montréal, il dit « Garde, vous le méritez, votre troisième lien. » C'est logique, mais j'écoutais tantôt aussi dans le show à GC, son collaborateur, là, l'ancien chef du Parti québécois, là, Lisée.
Ouais,
Jean-François Lisée, ouais. Qui disait « Non, non, ça n'a pas de bon sens. Il faut regarder cet argent-là pour les écoles puis les hôpitaux. » Mais on le voit en fin de semaine, c'était le Capharnaüm à Québec. Pendant 12 heures, c'est impossible de circuler.
On dépendait. Ouais. Rien, absolument rien. Une corde n'importe dans votre gauche, on est vite.
On est vite.
Ouais,
bon, on vit ça 2-3 fois par semaine.
Écoute, tu m'as demandé en début d'entrevue si je disais la même chose sur toutes les plateformes.
C'est pour ça que...
Oui, moi, je vais te le dire. Je ne suis pas un partisan du troisième lien juste parce que j'ai quand même l'impression que le gouvernement s'est tiré lui-même dans le pied en n'ayant pas fait non seulement la communication, mais la pédagogie concernant ce troisième lien. Quand tu commandes des études, puis qu'ensuite tu dis que les études, elles sont pas bonnes, puis après que tu ressors les mêmes études pour dire que c'est bon, c'est difficile à croire. C'est un peu ça. J'ai quand même l'impression que... Puis tout d'un coup, moi, ça m'avait fait rire parce que tout d'un coup, quand j'avais vu Mme Guilbeault qui comme ça sort sécurité économique, on n'en avait jamais parlé. Là, ça veut dire... Puis moi, ça avait été quoi mon premier réflexe? J'avais dit, attendez, là, à Trois-Rivières, il n'y a qu'un pont, le pont de la Violette. Alors, est-ce qu'on veut deux ponts aussi à Trois-Rivières? Est-ce que toutes les municipalités du Québec qui ont maintenant qu'un pont, on va en construire deux? Tu sais, j'ai comme l'impression...
Mais Québec, c'est comme une plaque tournante du camionnage.
Mais je dis juste que c'est la faute, en tout cas, de...
Ils ont brûlé le projet,
exactement,
la CAQ, c'est ça?
C'est ça.
Sur le troisième lien en tant que tel... Qu'est-ce que t'en penses?
Mais moi,
la nécessité d'en avoir un, il y a le capital ici. Là.
Je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas les coûts, je ne sais même pas ça prend quoi la forme. Quand on commence avec un tube, un bitube, un tunnel, on ne peut pas faire le tunnel, un pont, l'île d'Orléans, pas l'île d'Orléans. Écoute, honnêtement, je suis perdu. Là. Ça veut dire, même si je voulais y croire, je ne peux pas y croire, je ne sais pas ce qu'ils nous proposent. Tu sais, le pont Champlain, là. Puis j'étais au gouvernement fédéral à cette époque, ce n'était pas compliqué. Le pont Champlain s'écroulait, on a besoin d'un pont, on l'a fait en temps et en budget. Merci, au revoir. Ça a été le pont qui a été fait le plus rapidement, puis on n'a pas dépassé les coûts. Il y a seule petite embrouille qu'il a eue, c'est que nous, on avait proposé un péage, puis finalement, Trudeau enlevait le péage. Mais juste pour te dire, c'était ça. C'est pour ça que je te dis, j'ai de la difficulté moi-même, puis je l'ai dit, je fais partie des sceptiques sur le troisième lien, parce que je pense que la pédagogie et la communication du gouvernement, ça a été un désastre.
Tu penses quoi du projet d'Éric Duhaime? Le fameux pont à deux voies qui irait l'autre côté, qui irait sur l'île après ça, parce qu'on est en train d'en construire un autre.
C'est ça que je me dis. J'ai l'impression qu'on s'improvise tous ingénieurs. C'est comme aujourd'hui, là. On va en parler, mais l'annonce de Churchill Falls, tout le monde me parle de 10 000 kilowattheures. Écoute, je sais pas c'est quoi un kilowattheure déjà. On va se relaxer un tout petit peu. C'est comme, au bout d'un moment, tu parles de ce que tu sais. Moi, pour l'instant, je sais pas c'est quoi. Je suis pas ingénieur. Je suis pas non plus. Je connais pas tous les kilowattheures. Je sais que c'est des projets importants. Puis après, on peut discuter de comment le gouvernement l'a mis de l'avant, comment le gouvernement le justifie, puis surtout la stratégie politique derrière.
Ben, moi aussi, je ne suis pas un ingénieur, puis les chiffres, tout ça prendrait des spécialistes, mais
c'est ça.
Ce que ma compréhension de ça, c'est que on les fourrait, excuse-moi, là, à 2 cents le kilowattheure. Là, on va le payer 6 cents le kilowattheure, mais si on le faisait nous-mêmes, ça serait 13 cents, 13 à 15 cents à peu près. Oui. Fait que ça peut être un bon deal pour au moins 50 ans, parce que les 50 autres années, on le sait beau.
Oui, c'est super intéressant l'annonce d'aujourd'hui du point de vue politique parce que, oui, finalement, là, c'est plus du tout le même deal que M. Legault avait avec l'ancien premier ministre de Terre-Neuve qui était un libéral. Ça va être plus gros. On parle de beaucoup plus d'investissements. Puis avant, c'était un deal à deux. Maintenant, il y a comme un nouveau partenaire qui est rentré dans la danse qui s'appelle le gouvernement fédéral, M. Carney, qui met le gouvernement 10 milliards de dollars pour inciter, donner un petit cadeau à Terre-Neuve, essayer de pousser comme ça ce projet. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai même entendu le premier ministre de Terre-Neuve, j'ai écouté la conférence de presse, qui a dit à M. Carney, « Merci, ça va être votre héritage. » Ils disent maintenant que ce projet d'hydroélectricité entre le Québec et Terre-Neuve, ça ne va plus être l'héritage de Mme Fréchette.
Mais de M.
Carney. De M. Carney. Donc, oui. Tu vois comment toute la dynamique. Donc, c'est pour ça que je te dis, Danny, ça va être super intéressant parce que là, on est 24-48. Les prochains 2-3 jours, ça va être le spin. Qui a fait quoi? Comment on a réussi? Là, le spin actuellement, c'est comme, hey, c'est le gouvernement fédéral qui a réussi à donner le petit coup pour que finalement cet accord soit fait. Puis ensuite, ben, on va juger, mais pour l'instant, on ne connaît pas non plus tous les détails.
Sondage, on va finir avec ça, sondage fédéral. Au Québec, c'est là que ça devient intéressant, baisse du Parti libéral de Carney de 11 ou 12 points, je pense.
Oui, 11 points.
Mais ça s'en va chez le Bloc québécois.
Exactement.
Comment t'expliques ça?
Écoute, exactement.
On est-tu une gang de peureux à ce point-là?
Non, mais c'est vraiment intéressant, Danny, parce que ça fait des mois, depuis l'élection, on dit « Monsieur Carney marche sur l'eau, la lune de miel s'arrêtera pas ». Écoute, t'as déjà vu 48 % d'intention de vote pour un parti politique, là, ça n'existe pas, là. Et là, comme ça, tout d'un coup, on voit, je ne sais pas si c'est qu'un sondage ou une tendance, mais méchant drop, 11 points pour le Parti libéral, et c'est le Bloc québécois qui remonte de 28 à 35. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a Chicoutimi-Lefiore, il va avoir une élection. M. Carney a comme dit, bon, je vais offrir un cadeau à M. Martel, il va devenir sénateur, je vais gagner cette circonscription. Mais là, quand tu regardes
c'est
maintenant les données, c'est très, très serré. Puis là, on dirait que la lune de miel avec, en tout cas, les Québécois, mais même, je le dis là, honnêtement, là, à 37 %, moi, j'aimerais avoir 37 %. Là, ça veut dire passer de 48 à 37, c'est pas bien, mais déjà 37, c'est super, super bien. Mais ça fait que peut-être le Bloc québécois, maintenant, est un tout petit peu plus revigoré. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier, le Bloc québécois a perdu des sièges à la dernière élection, a perdu la partielle dans Terrebonne. Maintenant, la barre est aussi pour Yves-François Blanchet de possiblement gagner cette circonscription.
Mais comment t'expliques que les conservateurs de Poilievre ont encore perdu 2 points?
Oui.
Ça passe pas au Québec?
Non, écoute, c'est difficile. C'est difficile pour un chef de l'opposition d'avoir de l'attention médiatique, surtout quand le Parlement ne siège pas, surtout quand tu as un M. Carney qui n'est pas souvent à la période des questions, qui n'est pas beaucoup à la Chambre des communes. Ça, déjà, c'est difficile. Et oui, je pense qu'actuellement, les conservateurs sont dans une situation difficile parce que tu te dirais, c'est pas normal que si les libéraux perdent des points, normalement, tu dois être l'autre, tu dois être le premier ministre en attente, tu dois être celui qui veut le changement ou que les gens vont se tourner pour le changement. Mais on dirait que pour l'instant, les Québécois boudent encore le Parti conservateur à la lumière de ce sondage.
On ne pourra pas encore changer le look de Pierre Poilievre. On ne peut plus rien faire.
Il n'y a plus de lunettes.
Pas le rose.
Il y a des t-shirts. Il y a une petite barbe, il n'y en a pas.
Non, je ne sais pas si une moustache, ça ferait lever l'affaire.
Merci beaucoup. J'aimerais que tu sois au Québec sur une période d'un mois, peut-être que tu comprendrais mieux que malgré les études. Quand ça arrive, nous, on le vit au quotidien. Puis moi, ça fait 18 ans que j'étais à Québec. Puis je vois que ça a dépéri d'une année à l'autre au niveau de la circulation. Puis je me dis, je veux pas qu'on devienne à Montréal 2. Tu sais, Montréal, tu y vas parfois,
oui.
Rodolphe, puis je veux dire, même si vous avez 17 liens, je pense que c'est 17 liens qu'il y a à Montréal.
Il y en a beaucoup, en tout cas.
17, en tout cas.
Mais nous, c'est ainsi avec les travaux, c'est des fois 2 heures, 2 heures et demie de trafic pour se rendre sur Rive-Nord, Rive-Sud.
Oui, mais j'aurais aimé surtout que, tu sais, on dépolitise tout ça. Ça veut dire, s'il y avait des ingénieurs, s'il y avait des choses qui avaient dit, écoute, on a besoin de ça, bon, ben, on a besoin de ça, tu sais. Pont Champlain, là, il allait s'écrouler, il y a eu un rapport, on a dû intervenir rapidement. C'était un pont fédéral, on a dit, on y va, il n'y a pas le choix, là, ça veut dire. C'est ça qui arrive. J'ai quand l'impression qu'à Québec, c'était comme beaucoup de promesses politiques, puis qu'on n'avait pas fait le travail, en tout cas à la base.
Je pense que ça a été Gaston Lagaffe pour le parti la CAQ concernant ce dossier-là.
Tout à fait, Danny.
Ils vont s'en ressentir le 5 octobre. Merci beaucoup.
À bientôt.
Viens nous voir plus souvent. Bye.
Merci.
Ce segment d'émission est présenté par le Grand Royal Wallinac. La série estivale de poker est en cours. Participez au tournoi qualificatif du samedi pour accéder à la finale du 29 août. 50 000 $ garantis. GrandRoyalWallinac.com.
Le retour de Radio X.
Restez là, on revient dans un instant.
Radio X.